Les podcasts du Figaro. Au goulot. Au goulot. Le podcast à boire et à écouter, présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro Vent.
Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au goulot, le podcast à boire et à écouter. Je suis Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro Vin, et je suis ravie de poursuivre avec vous cette deuxième saison d'Au goulot, qui fait désormais partie de la série de podcasts diffusée sur le site du Figaro Vin. Donc aujourd'hui, notre invité est le journaliste et célèbre animateur de télé Jamy Gourmaud, que vous avez tous pu voir dans la série C'est pas sorcier, et aujourd'hui sur YouTube. Donc bonjour Jamy.
Bonjour Alicia.
Est-ce que ça vous va comme introduction ?
Oui, on pourra juste rajouter Le Monde de Jamy, qui est l'émission sur laquelle je travaille depuis une petite dizaine d'années. Des documentaires incarnés qui sont diffusés sur France 3 en prime time.
Est-ce que vous avez d'autres actualités à nous partager ?
La réédition d'un bouquin, un almanach, 366 jours avec Jamy. Et puis voilà, on va s'arrêter là.
Très bien. Au goulot. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous savez ce que vous faites là ?
Alors, ce que je fais là, je devine. Je suis face à un micro, il y a quelques verres à ma droite, quelques bouteilles également, donc j'imagine un petit peu ce qui va se passer.
Alors, si je vous demande à brûle-pourpoint, c'est quoi pour vous le vin ?
Ah, le vin... Alors, je vais d'abord vous parler de sensations, je vais d'abord vous parler de parfum. Je suis très très sensible au parfum du vin. Et moi, un vin me séduit d'abord par son nez. Il y a certains vins, je peux rester... je reste parfois de longues minutes sur un verre, juste pour profiter de son parfum.
Voilà. On va prendre
Donc,
notre temps.
Pour moi, c'est d'abord ça. Et puis ensuite, le vin, c'est l'amitié. Mais c'est aussi la confidence. Parfois, le vin se partage à 5, 6 autour d'une table festive, mais parfois aussi le vin accompagne les moments plus intimes. Donc, c'est tout ça, un vin.
Alors, on va commencer avec la première bouteille, à l'aveugle.
Déjà, ça pétille.
Alors, c'est un vin qui a une petite singularité. Alors, à quoi ça vous fait penser, justement, sur ce fameux nez dont vous parliez ?
Ah, c'est compliqué parce qu'on est devant un micro, il n'y a pas d'image.
Et oui.
Et donc, il faut échapper au silence.
Exactement.
Alors qu'on a besoin de silence. Ça me donne très envie d'y tremper mes lèvres.
Alors, allons-y. Voilà. Est-ce que vous pourriez le décrire pour nos auditeurs ?
Oui. J'ai l'impression d'un vin jeune, très jeune, oui. d'un vin nature. On pourrait penser à un vin qui est en train de se faire.
Mm-hmm.
Quand je remets le nez dedans, il me fait penser... Alors, quand j'étais jeune... Ouais, puis on voit qu'il est un peu trouble. Ouais. Il me fait penser au vin que je buvais quand j'étais étudiant et que je participais aux vendanges.
Ah, donc un vin très
voilà,
jeune.
Voilà, un vin très très jeune, un vin qui est, comme je vous le disais, un vin qui est en train de se faire. C'est ce qui me vient à l'esprit et ce qui me vient en bouche, à la fois pour les papilles et pour les mots en premier.
Et est-ce que votre esprit scientifique vous aide ou vous empêche parfois d'apprécier un vin ?
Du tout, parce que, en fait, je ne suis pas scientifique.
Ah.
Eh non, moi j'ai une formation littéraire, une formation de journaliste. Je suis tombé dans la science un petit peu par hasard, comme d'autres tombent dans le vin, finalement. Et puis, ça m'a beaucoup plu, mais ça ne m'a pas empêché, au contraire même. Parce que je pense que les scientifiques sont d'abord et avant tout des contemplatifs.
C'est vrai.
Parce qu'un scientifique, c'est d'abord un observateur. Mm. D'abord, il observe, peut-être moins aujourd'hui, mais on va dire les premiers savants, se basaient d'abord sur ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, ce qu'ils sentaient, ce qu'ils touchaient. Mmh. Et puis ensuite, ils analysaient, ils essayaient de comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, un scientifique, eh bien, il agit toujours de la même manière. Je pense qu'un scientifique amateur de vin, eh bien, oublie sa paillasse, son laboratoire, son écran, son clavier, et se laisse emporter par les sensations.
Alors, si on parle de sensations et on parlait d'intimité précédemment, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe dans l'intimité de soi-même lorsqu'on boit du vin, lorsqu'on est ivre ?
Ouf !
Qu'est-ce qui se passe dans
Alors,
le corps ?
Ça va peut-être vous surprendre, mais je n'apprécie pas la sensation de l'ivresse.
Ah.
On peut apprécier, allez, le tout début de l'ivresse, quand on est un tout petit peu grisé. Mais je n'aime pas être emporté par des sensations qui vont prendre plus d'ampleur qu'elles ne devraient. Je n'apprécie jamais plus un vin que lorsque je suis à jeun et les premières gorgées que je déguste.
Donc
c'est ce moment que je préfère. Dès l'instant où il y a un peu d'ivresse, je pense que le cerveau s'emballe.
Mm-mm.
En ce qui me concerne, parce que je consomme peu de vin. Évidemment, chez des amateurs qui sont un peu plus chevronnés, qui ont un palais un peu plus chevronné, qui sont capables de franchir ce handicap, parce que je considère que c'est un handicap, parce que ça dénature un petit peu le regard, le nez que l'on peut avoir sur un vin. Donc, chez des personnes qui ont cette habitude, évidemment, ça ne pose pas de problème. Chez moi, ça en pose, et vraiment, ce que j'adore, c'est quand je n'ai pas goûté un vin depuis quelques jours, le moment où je mets le nez dessus et quand j'avale la première gorgée, quand je la fais tourner en bouche, ça c'est le meilleur moment.
Alors est-ce que vous arrivez à deviner où on est ?
Non.
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 Alors, on est dans le Nord, voir le Grand Nord. Et est-ce que
wow.
Vous aimez ou est-ce que vous passez complètement à côté ?
Alors, je ne vais pas vous dire que je n'aime pas. C'est un vin qui me plaît, qui me séduit, mais ce n'est pas une dinguerie.
Non.
Voilà, c'est mon sentiment.
Peut-être que ça le deviendra quand je vous divulguerai ce que c'est. Alors, juste avant, quelques petites questions. C'était quand votre première gorgée d'alcool, vu qu'on disait que ce vin vous rappelait la période des primeurs ?
Le premier vin, je pense que j'ai 13 ou 14 ans.
C'est tôt.
Mais c'est avec parcimonie.
Et oui.
Ce qui est important, je pense, c'est le moment pendant lequel on le déguste. C'est toujours autour d'un repas festif, en famille, voilà, avec un père qui est amateur et qui fait découvrir le vin.
Une initiation.
Donc, c'est ce moment qui est important.
C'est vrai.
Voilà. Je pense que beaucoup de personnes ont découvert le vin en avalant une gorgée de champagne. C'est pas
vrai.
Mon cas.
À la fin d'un mariage, lorsque les adultes dansent.
Voilà. C'est pas mon cas. C'était plutôt des vins de Bordeaux. Et je crois, parce que mon père est... adorait certains sauternes. C'était traditionnel. À Noël, il ouvrait toujours une bouteille de Château Suduiro. Voilà.
Très joli.
Et je pense que c'est mon premier souvenir. À l'époque, il travaillait un peu en Hongrie et il ramenait du Tokay hongrois.
Qui est un peu dans la même lignée.
Voilà. Et donc, c'était des vins que l'on dégustait à Noël.
Est-ce que vous pensez qu'on reste fidèle au vin de son adolescence ?
Non.
Non.
Non, je pense pas. On en garde un souvenir. Mais après, chacun se construit. Moi, je pense que je n'ai pas du tout les mêmes goûts que mes frères ou mon père.
Et aujourd'hui, vous buvez du vin ?
Oui, je bois du vin aujourd'hui. Oui. Ouais.
À quelles occasions ?
En général, plutôt le week-end, avant un dîner, pendant un dîner, parfois après, avec des amis, en regardant un match de rugby.
Parfait.
Voilà. C'est toujours... Autour d'un moment festif.
Et comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un vin produise en nous une émotion ? Est-ce qu'il y a une définition de l'émotion physiologiquement.
Ah mais si, si, moi je pense qu'un vin peut créer une émotion parce que justement, et c'est là on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'ivresse, parce que le vin c'est d'abord et avant tout des sensations, et quand je dis sensations, je pense à la sollicitation de nos sens. Ce sont des parfums, des goûts, mais c'est aussi une texture, une saveur, un son. Voilà, tout à l'heure, on a très bien entendu une bouteille que l'on débouche, un tire-bouchon qui se glisse dans le bouchon, le vin qui s'écoule, le bruit du verre, tout cela fait partie des sensations qu'on va éprouver quand on va déguster un vin. Et puis, il y a, vous voyez, au moment où je parlais des odeurs, d'un seul coup, clac, qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit ? L'odeur de la cave de mon grand-père. Il fallait sortir de la maison, il fallait descendre. Je me souviens, la cave était creusée sous la maison, mais il y avait une sorte d'escalier, mais creusé dans la roche, qui était poli à force de marcher sur ces roches. Bien sûr, il n'y a pas eu que celles de mes parents et de mes grands-parents. Il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres avant. Mais j'ai l'odeur, vous voyez, j'ai l'odeur de cette cave. Et au fur et à mesure où on en parle, j'ai l'odeur de la mousse avant d'entrer dans la cave, qui n'est pas du tout la même que l'odeur de la cave elle-même, qui n'est pas non plus la même en fonction des saisons. Tout ça, ça fait partie du plaisir que l'on va avoir à déguster un vin.
Vous parliez de mousse, c'est drôle parce que je vais vous divulguer ce qu'on est en train de boire. Donc,
je pense que ce n'est pas un hasard si je vous ai dit mousse. Parce que comme vous m'avez demandé tout à l'heure à quoi ça me faisait penser, j'avais du mal à mettre des mots sur ce que je ressentais. Et puis vous voyez, en discutant, je suis arrivé à la cave de mon grand-père et à cet escalier qui, l'hiver, sentait la mousse. Donc, il y a un peu de ça.
C'est ça. Et donc, ce qu'on voit, c'est bien une mousse, puisque ce n'est pas un vin, c'est une lambic de la brasserie Cantillon. Alors, on est en Belgique, c'est pour ça que je vous parlais de Grand Nord. Donc, la brasserie Cantillon, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une des brasseries les plus épatantes du moment. Enfin, ça fait très longtemps qu'ils existent. Et sa particularité, donc, c'est de faire des bières à levure spontanée.
D'accord.
Donc, qui donne ce côté extrêmement...
Vous vous rendez compte ? C'est terrible. Vos auditeurs vont dire, mais il est nul, il est incapable de faire la différence entre une bière et un vin.
Non, c'est là où il y a un piège. C'est que je ne vous ai pas pigé complètement parce qu'il y a un peu de vin dans cette bière, mais pas sous forme de vin. En fait, on est avec des moûts de raisin, donc de merlot, de grenache et de grenache noir et de syrah, qui vont être mélangés à cette bière qui est finalement une bière aromatisée, mais qui est en fait, je trouve, une bière parfaite pour amadouer les amateurs de vin qui ne boivent pas de bière. Et donc moi, je ne bois pas de bière personnellement et j'adore ces bières parce que ça me permet d'en boire plus facilement. Et en plus, c'est un degré très, très faible d'alcool et je trouve ça très rafraîchissant. Mais je pensais que vous alliez deviner avec l'amertume, parce qu'il y a quand même une amertume très forte qui peut faire penser à un vin jeune.
Oui.
Mais on sent le côté bière quand même.
Et oui, mais n'étant pas non plus un grand amateur de bière... C'est extrêmement compliqué.
C'est vrai.
Et voilà, j'avais noté sur mon agenda qu'on parlerait de vin. Donc, vous voyez un peu comment le cerveau se fait piéger et on rentre tout de suite dans des cases. Je vais boire du vin. Voilà. Dans la mesure où on se dit, je vais boire du vin, voilà. Eh bien,
voilà.
On ne pense qu'au vin.
Qu'au vin.
Voilà.
Au goulot. Au goulot.
Alors maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus classique, mais pas tout à fait classique, puisqu'on va goûter un vin orange. Qui là encore a une singularité, mais c'est pas un piège. Alors là encore, est-ce que vous pourriez le décrire ? Il n'est pas très orange finalement.
Non, non.
Parfois, il a été plus orangé dans mes souvenirs.
Alors il est un peu trouble également. C'est très, très étonnant.
Oui.
Alors vous dites orange, donc on met le nez dessus tout de suite, puisqu'on a prononcé le mot orange, on dit ah !
Les agrumes.
Il y a des agrumes. Mais il y a des agrumes au nez.
C'est un jus d'orange. Je vais vous piéger de bout en bout.
C'est un jus d'orange, mais un jus d'orange fermenté.
Exactement. Un vin d'orange.
Ah ben c'est incroyable.
Avec qui est-ce que vous pourriez boire ce vin? Avec un palais averti, peut-être?
En fait, mon problème, c'est que j'ai pas mal de copains vignerons et pas mal d'amis amateurs. Donc, en fait, quand je me retrouve autour d'une table et devant des bouteilles et des verres, je fais un peu le paresseux.
Ah oui?
C'est-à-dire que je les écoute. J'adore, d'ailleurs, les écouter échanger. Et j'adore les écouter parler du vin.
Mm-mm.
Moi, je me tais. Mais je bois autant leurs paroles que ce qu'il y a dans mon verre.
C'est ça qui est beau.
Donc, avec qui je pourrais le boire? Alors, plein de personnes avec qui je pourrais le boire, mais j'ai senti dans votre question avec qui je pourrais le boire qu'il apprécie.
Exactement, c'est tout sous-entendu.
Dans un premier temps, j'ai tout de suite vu ceux avec qui, ceux qui ne l'apprécieraient pas.
Par élimination.
Par élimination. Mais non, parce que, et comme le précédent, parce que le vin, c'est du raisin. Et donc là, on est sur autre chose. Alors c'est bon, mais personnellement, même j'ai du mal, si vous me permettez.
Bien sûr, on est là pour ça.
À me dire, c'est du vin, parce que ce n'est pas du jus de raisin. Alors, c'est une vinification, vous allez me dire. Donc, dès lors, on peut parler de vin.
Oui.
Bon, on joue un peu sur les mots.
Et est-ce que justement, vous vous êtes déjà disputé à cause d'un vin?
Non. Jamais, 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 non. Non. Encore une fois, je bois du vin dans des occasions festives avec des amateurs qui, en général, ont envie de me faire découvrir quelque chose, ont envie de me faire découvrir un vin, ou alors un vin que je connais, mais d'une année particulière, ou de faire une dégustation, de goûter une année chaude, une année froide, vous voyez, mais pas de battle.
Pas de confrontation.
Voilà.
Mais il y a tout un récit autour du vin, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je trouve que le récit qu'on en fait, vous parliez des échanges avec les vignerons, va changer complètement le goût du vin. Et vous disiez précédemment qu'il y avait ce côté de suggestion, puisqu'on vous pensiez venir ici pour parler de vin, et finalement je vous ai servi une bière.
Et un jus d'orange.
Et un jus d'orange. Alors,
pardon.
Non, c'est vrai.
Un vin d'orange.
Mais
J'avais goûté comme ceci une fois un vin de rhubarbe.
Ah.
Qui finalement n'était pas si mauvais que ça. Et alors, j'avais décelé que c'était pas du vin. Ça ressemblait un peu à un vin moelleux.
Mais ça peut, effectivement. Alors, on fait aujourd'hui des vins de fruits, mais ici, on est bien sur un vin de raisin. Mais un raisin qui ne devrait pas du tout pousser là où il pousse, puisqu'on est chez Fabien Jouve à Cahors. Et que c'est un chenin. Donc chenin, petit clin d'œil à vos origines, parce qu'il me semble que vous êtes né dans la Loire.
Ah, je suis né en Vendée.
Vendée. Bon, c'est là que moi, je me suis fait piéger.
C'est pas grave. Chenin blanc, mais c'est complètement fou, ça.
C'est fou. Alors,
ouais.
D'habitude, il est beaucoup plus orange. Alors, on doit à Fabien Jouve la renaissance un petit peu des vins de Cahors qui ont été vilipendés pendant des années, parce qu'effectivement, on trouvait que c'était des vins très lourds, etc. Et là, c'est un vin de macération, donc qui devrait être beaucoup plus orangé, puisque c'est un blanc qui a été vinifié comme un rouge avec les peaux et qui lui donne normalement sa couleur beaucoup plus orangée. Et là, au nez, effectivement, il y a de l'agrume. Je trouve qu'il y a un petit peu de miel aussi. Il y a quelque chose d'assez frais. Et ce sont les sols qui donnent ce côté très frais, mais il y a une légère amertume aussi. Alors peut-être que c'est ce qui nous reste de la bière précédente.
Je suis davantage séduit par celui-ci que par le premier.
On va monter en gamme, c'est l'idée. Alors avec un petit peu de millésime, c'est un vin qui justement va devenir beaucoup plus oxydatif, qui va développer des arômes de noix, des choses beaucoup plus gourmandes et beaucoup plus portées sur les agrumes très mûrs, l'orange sanguine. Là, on est vraiment dans sa prime jeunesse.
Oh, je suis vraiment confus pour les vignerons.
Bah non, mais... Et donc je voulais vous demander... Est-ce que vous avez besoin de l'alcool pour faire certaines choses?
Surtout pas, justement.
Pour rencontrer des gens pour...
Non.
Non.
Non. Alors, ceci explique peut-être cela. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas écrire si j'ai consommé, mais ne serait-ce qu'un demi-verre de vin. Je n'y arrive pas.
Je n'arrive
pas à me concentrer.
Ça, je comprends. Alors, certains, justement, se servent du vin pour arrêter de travailler, pour ralentir, en se disant « si je bois un verre de vin, ça m'obligera à arrêter d'écrire ».
Oui. Moi, je dissocie vraiment les deux. Il y a un moment pour boire, pour déguster, mais je ne peux pas. Le verre de vin ne peut pas me servir d'intermède, de petite pause.
Et vous disiez que vous n'aimiez pas l'ivresse, mais est-ce que vous avez quand même déjà été ivre ?
Oui. Oui, j'ai été ivre.
Et alors,
même très ivre.
Et alors, si je vous demandais de me citer justement votre meilleur et votre pire souvenir d'ivresse.
Oh là là. Ah là 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 là. Mon pire souvenir d'ivresse. Je vais dire la première cuite. Voilà.
En général.
Voilà, la première cuite. J'ai 16 ans. Voilà. Je vais à une soirée, je ressors, on m'a volé mon vélo. Et j'ai un copain qui me dit « Allez, viens à la maison, on va oublier ça. » Et puis, comme deux idiots, on ouvre une bouteille de vin et on boit la bouteille de vin. Voilà. Et je suis rentré chez moi dans un état. Donc le lendemain matin, j'avais deux fautes à me faire pardonner. D'abord, de m'être fait piquer mon vélo parce que je n'avais pas mis mon antivol. Et deux, d'avoir... je ne vous fais pas de dessin. D'avoir laissé le lit dans un état effroyable.
Et le meilleur souvenir d'ivresse, il y en a bien...
Oui, il y en a, mais il y en a plein même. Parce que tout à l'heure, je vous disais que je n'aimais pas, mais il y a plein de moments où je dépasse un petit peu cette limite. Je m'arrête avant d'aller trop loin, mais il y en a... Il y a moins d'un mois, une soirée avec mon ami David Herrion et puis Mathieu Cosse. Voilà, on parlait de Cahors tout à l'heure.
Oui.
Voilà, eh bien, c'était un très très bon souvenir. Et il y en aura d'autres, et il y en a très souvent.
Il y en a souvent. Mmh. Et Mathieu Cosse qui fait des vins beaucoup plus classiques,
absolument,
mais néanmoins délicieux. Eh ben, je crois que c'est le moment d'ouvrir notre troisième bouteille.
Très bien.
Au goulot. Au goulot.
Ah. Là, je crois qu'on devine un peu.
Alors, petite astuce pour nos auditeurs, pour le champagne, il faut vraiment pencher la bouteille et pencher le verre pour éviter trop d'effervescence d'un seul coup. Alors, celle-ci n'a pas d'étiquette. Parce qu'elle est très rare.
Oh, mais le nez est fabuleux.
C'est très beau, n'est-ce pas ?
Là.
Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ce nez ?
J'ose dire que c'est très fruité.
Oui.
Presque un peu de pomme.
Effectivement, je trouve aussi des fleurs blanches.
Très, très beau nez.
Alors, pas de piège, c'est un champagne.
La bulle est extrêmement fine.
Oui.
Extrêmement fine. Et tout à l'heure, on a parlé du plaisir, on a parlé de sensations, on a parlé des saveurs, on a parlé des parfums, on a parlé du son. Et il y a aussi, bien sûr, les yeux. Mais ce qui est merveilleux avec ce champagne, là, les personnes qui nous écoutent, évidemment, ne le voient pas, c'est la trace que laisse ce champagne sur le verre.
Alors, comment on pourrait l'expliquer, ça ? Vous nous disiez avant l'émission, justement, que ça dépendait
comme
du verre.
Comme si le vin, il y avait presque une... Le vin coule sur la paroi et il continue à pétiller. Et c'est très joli, très très joli. On a l'impression que le verre contient des petites bulles d'air.
Et alors, l'effervescence du champagne, vous disiez que ça dépend beaucoup du verre.
Alors, ça dépend du verre. Ça dépend, en fait... de la surface intérieure du verre, et ça dépend aussi de la manière dont il a été nettoyé et essuyé. Puisqu'en fait, la bulle, qui est du casque carbonique, qui est dissous quand la bouteille est sous pression, au moment où on débouche la bouteille, ce gaz carbonique va reprendre sa forme gazeuse. Or, pour reprendre sa forme gazeuse, eh bien, il a besoin d'un tout petit peu d'air. Et où se trouve cet air ? Eh bien, il se trouve dans les petites anfractuosités du verre. Qui, alors, à l'œil nu, on a l'impression que c'est lisse. Mais en fait, ce n'est pas parfaitement lisse. Et c'est ici que vont se nicher des toutes petite bulle d'air, d'oxygène, puisqu'il va falloir que le carbone se combine avec l'oxygène pour redevenir du CO2. Et de la même manière, on retrouve ces petites bulles d'air. Vous savez, quand on essuie un verre avec un chiffon, eh bien, on va laisser des petits morceaux de tissu. Eh bien, ces petits morceaux, c'est ces petites charpies, en quelque sorte, eh bien, elles aussi contiennent ces petites bulles d'air et le gaz carbonique va en profiter pour aller se combiner avec l'oxygène pour former de jolies bulles.
Et donc, ce verre a-t-il été bien lavé?
Eh bien, oui, parce qu'on le voit, on a ce filet de bulles d'air qui vient du fond. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que ça vient du fond, parce que toutes ces petites impuretés, ces poussières, eh bien, s'accumulent dans le fond du verre. Et donc, on voit bien que c'est là que se forment les bulles, ce train de bulles qui remonte depuis la base du verre.
Et alors, est-ce que pour vous, le champagne est un vin particulier ? Est-ce que c'est d'une autre génération ? Est-ce que c'est... Beaucoup de gens séparent, on voit parfois sur les devantures des cafés, vin et champagne. Comme si le champagne n'était pas un vin.
Oui, c'est vrai.
C'est étonnant.
Oui. C'est un peu, vous savez, c'est comme avec la culture générale, il y a la culture générale et la culture scientifique.
C'est vrai.
Et bien on a l'impression que c'est à peu près la même chose avec le vin et les champagnes. Moi j'aime le champagne comme celui-ci, quand la bulle est très très fine et quand il est un peu vineux.
Et pourtant la robe ne le laisserait pas penser parce que...
Ouais. Enfin moi j'aime un champagne quand on se dit que c'est du vin. Moi je préfère consommer moins de champagne mais consommer des champagnes comme celui-ci. Voilà, des champagnes qui vont durer, qu'on va déguster doucement. Vous voyez tout à l'heure je me disais mais pour démarrer un... Là, ça, je me vois bien le 31 décembre avec mes amis, là, une petite bande, hein, faut pas être 50 non plus, mais à 7-8, je me vois bien déguster ce champagne le 31 décembre.
Mais oui, d'autant que le champagne est quand même toujours associé à un moment festif, et je trouve que malheureusement, les grands champagnes, on prend jamais le temps de les déguster correctement parce qu'on est attiré ailleurs.
C'est-à-dire il se passe autre chose.
Il y a la conversation, il y a les mondanités.
Complètement.
Alors qu'en fait, un grand champagne mériterait d'être dégusté seul.
Oui.
Est-ce que ça vous arrive de boire seul ?
Non. Je déguste forcément avec quelqu'un, à deux, avec mon épouse, oui. Mais seul, non. Mais probablement parce que c'est une culture que je n'ai pas. J'associe obligatoirement le vin à un moment de détente, de convivialité.
Mm-mm.
Et mais vous allez me dire, mais quand vous êtes seul, vous ne vous détendez jamais. Si. Mais je fais autre chose.
Vous prenez un bain, par exemple.
Voilà.
Pourtant, il y a quand même un certain plaisir à... Moi, j'aime toujours observer des gens dans des cafés qui sont là, l'œil un peu... dans le vide et qui dégustent un verre en terrasse, seul ou avec un livre et qui ont l'air plongés. Mais ils sont avec un livre.
Ils sont avec un livre. Alors, je vais vous raconter une anecdote. C'est un truc que je faisais quand j'étais jeune journaliste. J'étais JRI et je tournais pas mal à l'étranger. Et quand je partais en général pour des périodes assez longues. Allez, on va dire 20 jours, 20-25 jours. Et donc, en général, je me rendais dans des régions où il n'y avait pas de vin. Voilà, où vraiment des trucs imbuvables. Et quand je rentrais à Paris, je déposais mon sac, et la première chose que je faisais, il y avait un troquet à 50 mètres, eh bien, j'allais me commander un jambon beurre et un ballon de rouge. Voilà.
Pour
remettre les pieds chez moi.
Et oui, c'est vrai.
Donc vous voyez, il y a quand même eu des moments où, si, je consommais seul.
Donc là, on est chez Leclerc Briand, qui est une maison de champagne qui a Épernay, qui aurait bien pu tomber dans l'oubli si elle n'avait pas été sauvée par un couple d'Américains qui a racheté cette maison. Et qui en a fait aujourd'hui, moi je pense, l'un des meilleurs champagnes de réconciliation. C'est-à-dire que autant les amateurs de vin nature que les amateurs de champagne très classiques aiment ces champagnes-là. Et ils font toutes sortes d'expérimentations. Ils ont fait une cuvée qui a été immergée sous l'eau, donc qui produit. Alors je ne sais pas si c'est de la suggestion ou si c'est vraiment significatif.
J'avais bu des vins comme ça, des vins du Pays Basque.
Oui, Ejia Tejia.
Exactement, voilà, où le vigneron a fait construire des cuves béton sous l'eau, voilà.
Voilà, alors c'est un des seuls en France à faire ça. Leclerc Briand a mis les bouteilles sous la mer, donc en plus elles ressortent, elles sont serties de coquillages, enfin c'est assez spectaculaire, il y a toute une mise en scène. Et là, ce champagne-là, J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, au détour d'un reportage que je faisais, qui va s'intituler « Le mystère des clos ». Alors, les clos, donc, qui sont des parcelles très singulières, un petit peu comme en Bourgogne, qui ont été délimitées pour une raison précise dont on ignore parfois l'origine, donc soit par une haie, soit par un petit muret ou un fossé. Et en fait, cette délimitation va créer une sorte de microclimat qui va protéger ces vignes-là, qui sont souvent des vieilles vignes, donc des maladies ou... Voilà, qui va créer une singularité sur cette parcelle-là. Et là, on est au clos des Trois Clochers. Donc, c'est 30 arts de chardonnay dans la craie, baigné de lumière. Et donc, c'est une cuvée qui n'est pas dosée. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté très pur. Et en même temps, voilà, c'est cette vinosité des vieilles vignes. Et je la trouve très, très belle.
Non, c'est très bien. Là, vraiment.
Et alors, j'ai vu que vous aviez fait un reportage justement sur les climats de Bourgogne. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce travail d'orfèvre qu'ont fait les moines à l'époque pour délimiter en fait la Bourgogne en toutes petites parcelles et climats?
En fait, on a tourné il n'y a pas très longtemps. On a tourné au mois de mai dernier, dans le cadre d'une émission qui n'a pas encore été diffusée, donc Un monde de Jamy, qui est consacré à l'impact du réchauffement climatique sur les produits du terroir. Et donc, fatalement, parmi tous les produits du terroir qui sont impactés par le réchauffement, il y a bien sûr la vigne et le vin. Et donc, on est allé tourner en Bourgogne. Mais j'ai le sentiment que, parce qu'on en a un peu parlé avec Cyprien Arlot, chez qui nous étions, les moines se sont inspirés de ce qu'ils avaient sous les yeux. Et aujourd'hui, dans la manière de travailler la vigne, on est toujours là-dessus. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a différentes zones et des zones dans lesquelles, eh bien, les conditions climatiques ne sont pas du tout les mêmes. Il peut y avoir des différences de je parle de température, de 5, 6, 7 degrés parfois l'hiver entre des zones qui se trouvent au pied du coteau, ensuite les grands crus, et puis la dernière zone, la plus haute, on retrouve aussi des températures un peu plus basses. Donc on voit bien qu'il y a des conditions qui sont très différentes, à la fois aussi. On a fait une petite expérience qui était assez sympa. On a comparé la terre. On a rempli des verres de terre. et on a comparé la terre entre une parcelle qui se trouve, donc, même chose au niveau des villages, et des parcelles qui se trouvent au niveau des premiers crus. Et c'est très étonnant, parce qu'on voit très très bien que le sol est différent.
Bien sûr.
Et on comprend aussi qu'au sein même d'une même parcelle, eh bien, on va aussi avoir des différences de nature de sol. C'est ce qui fait l'extraordinaire richesse, d'ailleurs, de ces vins. Et probablement aussi leur capacité à résister au réchauffement climatique.
C'est vrai. Moi, ce que j'aime avec les clos, c'est que justement, on est dans cette approche un petit peu de dentelle. Et surtout, j'aime l'idée que pour un clos, on est sur une toute petite surface. Et les champenois, qui sont les rois de l'assemblage, là, on a vraiment un instantané, puisque cette parcelle est vendangée en une seule fois. On a vraiment un instantané d'un jour de vendange. Et je trouve ça assez beau parce que ça crée une sorte de bloc.
C'est très beau, absolument. Ouais.
Voilà, donc je voulais vraiment vous faire goûter ça.
Ah, mais c'est... C'est très, très bien.
Et il y a quelque chose de très mystérieux que les champenois eux-mêmes ne savent pas expliquer. Il y a plusieurs maisons qui ont des clos et à chaque fois, c'est vraiment une cuvée très exceptionnelle qui n'est pas vinifiée tous les ans et qui les sort un petit peu de leur zone de confort sur l'assemblage. Parce que moi, je compare souvent les champenois à des parfumeurs parce qu'ils ont une identité de maison.
Bien sûr.
Et ils doivent reproduire avec les vins de réserve chaque année le même vin. Dans ce sens-là, ils ressemblent davantage à des parfumeurs. Mais sur le clos, ils sont à nu. Parce qu'ils doivent se conformer aux millésimes en cours. Et donc, c'est ça que je trouve très beau avec les clos partout en France.
Et donc là, d'une année sur l'autre...
Ça change beaucoup.
Ça change beaucoup. Mais on est toujours dans l'excellence.
On est toujours dans l'excellence, exactement. Ouais. Et ben, c'est une très bonne conclusion. Et on va passer au quatrième vin que vous nous avez apporté.
Ah.
Et où on retourne dans le sud-ouest. Alors, malgré la saison, on est sur un rosé.
Oui.
Avec un très beau nez.
Bien, le nez, là, c'est magnifique. Mais c'est un rosé d'automne.
C'est un rosé d'automne. Alors, pourquoi ?
C'est un vin que je ne bois jamais l'été.
Ah.
Parce qu'il est...
C'est un homme de goût.
D'ailleurs, c'est très très difficile de boire des vins au cœur de l'été. Parce que vous les servez et vous l'avez à peine servi, que déjà la température change. C'est pas ma saison préférée pour boire le vin. Mes saisons préférées, c'est maintenant, l'automne. L'automne, c'est une très très belle saison des vins. Et puis aussi le printemps, parce que voilà, l'hiver est passé par là, les vins ont pris un an. C'est donc c'est aussi très intéressant au printemps. Celui-ci, je l'aime parce que vous avez parlé de parfum, mais c'est un vin que je trouve velouté.
C'est drôle de parler de texture pour le nez, mais
complètement,
c'est vrai.
Complètement.
Il y a un côté très... Alors ça va faire un peu snob, mais très rose ancienne, je trouve. Il y a quelque chose de très noble dans ce vin.
On peut dire ce que c'est.
Oui, on peut absolument dire ce que c'est.
Voilà, c'est un Mas Julien, on est à Jonquière, pas très loin de Montpellier. Mm-hmm. Et on est chez le vigneron qui a redonné ses lettres de noblesse au vin du Languedoc. Et rien que ça, c'est merveilleux.
C'est vrai.
Le travail qui a été accompli par ce vigneron, c'est un phénix. Parce qu'il a fait renaître cette région, voilà, qui était habituée, pardonnez-moi l'expression, mais à faire pisser la vigne. Et là, d'un seul coup, on s'est aperçu que c'était des sols qui étaient capables de produire, évidemment, travaillant bien la vigne, mais qui étaient capables de produire des vins sublimes.
C'est assez drôle de voir à quel point aujourd'hui le Languedoc renaître ses cendres. Bon, c'est pas nouveau, mais je faisais une interview récemment d'un vigneron d'ailleurs, du Bordelais, de Château Cheval Blanc. Et je lui demandais quel était son vin préféré. Et je pensais qu'il allait me citer un Bordelais ou son vin. Et il m'a dit « Autour de Jonquière, du Mas Julien ». Et j'ai trouvé ça très beau parce que je me suis dit qu'on assistait vraiment en direct à un changement d'époque. Quand un Bordelais de grand cru classé dit que son vin préféré est un Languedoc, je me dis qu'on est passé à autre chose.
Ouais.
Mais c'est vrai que le rosé, c'est un vin qui... Les rosés vineux plaisent assez peu aux amateurs de rosé parce qu'on dit souvent que ceux qui boivent du rosé n'aiment pas le vin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Alors, il y a plein de rosés que je déteste. Dès que ça a un goût de bonbon trop prononcé, de violette parfois, où c'est... il m'arrive de goûter un vin rosé, je me dis une gorgée, sinon j'ai mal au crâne dans un quart d'heure.
Oui, oui.
Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est stupide de dire que le rosé n'est pas bon. Non, il y a du bon et du moins bon, comme partout. Mais celui-ci, je suis désolé, il est excellent.
C'est magnifique, c'est vrai. Et il pourrait faire penser à des grands rosés de Bandol. Je trouve que ce qui sauve la Provence sur le rosé aujourd'hui, c'est vraiment Bandol. Parce qu'on est sur ces rosés très foncés, qui sont des rosés de gastronomie en fait, qui sont des vrais vins. Non pas que les rosés clairs soient des faux vins, mais... Est-ce que vous savez pourquoi comment on explique la popularité des rosés très clairs?
Allez, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est l'œil. Ce sont des vins qu'on va boire l'été quand il fait chaud. Plus ils sont clairs, plus ils se rapprochent de la couleur de l'eau, finalement.
Exactement.
Et donc, plus on va considérer qu'ils sont rafraîchissants.
Et c'est vraiment l'explication. En fait, c'est une démarche un peu marketing parce qu'on parlait de la vision. Et en fait, le fait que les rosés soient très clairs, on va forcément les associer à quelque chose de léger, de peu sucré, de peu alcoolisé. Alors qu'il y a des vins rosés très très clairs qui sont très très forts.
Absolument.
Voilà, donc c'est un piège.
Et qui ne sont pas bons.
Et qui ne sont pas bons en plus pour tout gâcher.
Non mais déjà, c'est un rosé, mais la couleur est superbe.
C'est superbe. Je plains les auditeurs de ne pas voir ça. C'est orangé, je ne saurais même pas décrire cette couleur, tant il y a de nuances, il y a presque du bronze. C'est un très grand rosé.
Oui, c'est très bon.
Mais merci beaucoup d'avoir amené cette bouteille.
Au goulot. Au goulot.
C'est le moment de l'addition. Donc on a bu une bière au mou de raisin de chez Cantillon, un vin orange de chez Fabien Jouve qui n'était pas si orange que ça, un champagne de Leclerc Briand et la cuvée de notre invité, un rosé du Mas Julien sur le millésime, j'ai pas eu le temps de voir.
2022. Oui, qui est un bon millésime.
Qui est un très bon millésime, très chaud. Maintenant, je vais vous donner mon conseil du jour. Donc là, on retourne à Bruxelles avec un livre écrit par le professeur Fabrizio Buccella qui me fait beaucoup penser à vous parce que c'est quelqu'un de d'éminemment drôle, qui arrive à vulgariser un propos de façon extrêmement intelligente. Et ça, c'est son dernier livre qui s'appelle « Trouver le vin qui vous va bien ». Et j'étais avec son éditrice cet après-midi qui me disait que l'idée de ce livre avait germé durant un déjeuner où elle lui a dit « Mais en fait, moi, j'arrive pas à trouver le vin qui me va bien. » Et il cherchait une idée pour son prochain livre et il a dit « Bah voilà. »
C'est une très, très belle idée.
C'est une très belle idée.
Très belle idée.
Et donc, c'est assez rigolo. C'est pour vous. Hein, vous pourrez partir avec. Et donc, l'idée, en fait, il y a énormément d'illustrations et des petites infographies pour, en fait, essayer de...
Alors, il y avait une carte de France. Parce que moi, je vous ai pas parlé de mon vin préféré.
Ah, alors, quel est votre vin préféré? Voilà.
Donc, y a un vin, moi, qui me rend dingue. Et c'est un vin d'Alsace, les vins de chez Marcel Dyce.
Ah, magnifique, c'est vrai.
Ce sont des vins, tout à l'heure je vous parlais des parfums.
Oui.
Et la première fois j'en ai bu, j'adore ces odeurs là de terpènes là, qui remontent, là, d'hydrocarbures.
Oui,
c'est complètement dingue. et la première fois que j'en ai bu, eh bien je me suis tout de suite, instantanément, c'est là le pouvoir des parfums. Le pouvoir de la mémoire des parfums. Quand j'étais jeune journaliste, j'étais allé faire un reportage à Soultz, en Alsace, où à l'époque on faisait des forages, on injectait de l'eau pour produire de l'eau chaude, on récupère la chaleur du sous-sol, etc. Et en marchant dans la forêt, eh bien c'était en plein hiver, il y avait un peu de neige, mais dans la forêt, et il y avait des bauges dans lesquelles les sangliers viennent se rouler. Et dans ces bauges, il reste toujours un petit peu de sol un peu pétroleux. Et il y avait cette odeur. Il y avait cette odeur dans la forêt. Et la première fois que j'ai mis le nez sur ce vin-là, instantanément, l'image m'est revenue. Et donc, c'est très, très puissant. Voilà, donc... de mes vins préférés.
On parlait du renouveau du Languedoc, mais je pense qu'on ne peut pas oublier le renouveau de l'Alsace. Et en plus, les Pinot Noirs vont bientôt passer en Grand Cru, ce qui est amplement mérité. Et les Riesling et ce côté pétrolé. Donc il faut se jeter sur l'Alsace avant que ça devienne inabordable.
Mais en plus, chez Marcel Dyce, avec son idée là, de complantation.
Incroyable.
Splendide.
C'est vrai. C'est des vins qu'on pourrait uniquement sentir.
Il y a de très belles histoires d'ailleurs autour de cette complantation.
Oui. Contemplation.
Contemplation, contemplation.
Voilà. C'est des vins à contempler. Eh ben merci beaucoup. En tout cas, avant de se quitter, je voudrais remercier toute l'équipe de Make Some Noise pour la production et Jamy d'avoir bu des coups avec nous. Et à bientôt pour le prochain épisode d'Ogoulo.
Eh ben merci beaucoup. Hein. Et puis désolé de ne pas avoir trouvé parce que vous avez il y a eu la note, mais la mienne n'est pas très élevée.
Merci beaucoup.
Au goulot. Au goulot. Retrouvez tous les épisodes du podcast À boire et à écouter, présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro Vin, en ligne sur toutes les plateformes.